Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-glace. Avant de vous laisser plonger dans votre nouvel épisode, je voulais vous parler de « Y a qu'à m'expliquer », une toute nouvelle série audio du temps dédiée aux intelligences artificielles. Deux fois par mois, dans « Y a qu'à m'expliquer », Grégoire Barbet tentera de démystifier les enjeux posés par ces IA et reviendra sur les principales actualités qui les concernent. Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir « Sous la coupole », notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Je me suis mise à éviter de me trouver seule dans des endroits de la maison où on pouvait m'atteindre. J'évitais et son regard et sa présence le plus possible. Je me souviens d'avoir été tout le temps sur mes gardes et à devoir penser ma vie en termes de est-ce que ça va être aujourd'hui, demain, où est-ce que je vais être aujourd'hui pour ne pas être agressée ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux que je sois agressée comme ça, je suis tranquille un moment. Et il y avait quelque chose d'inéluctable.
Bienvenue dans la saison 6 de Brise-glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On dit souvent de l'inceste qu'il est le plus tabou de tous les tabous, et aucune classe sociale n'échappe à ce constat. Mine, romande de 69 ans, a fait très jeune l'expérience de la solitude qui entoure celles et ceux qui l'ont subie. Au micro de Brise-glace, elle raconte la honte, l'inaction des adultes à qui elle s'était pourtant confiée, mais aussi l'entreprise de réparation des années plus tard, le refus d'être réduite à son statut de victime. Mère de 4 enfants aujourd'hui, c'est pour elle-même autant que pour eux qu'elle a choisi de briser le silence.
Je m'appelle Mine, j'ai 69 ans, je suis originaire de Chambézy, dans le canton de Genève. Alors je suis retraitée de mon métier de logopédiste, que j'ai pratiqué seulement, on peut dire, une dizaine d'années avant de prendre une retraite assez tardive, il y a 4 ans. J'ai 3 frères aînés, 3 frères cadets et une petite sœur de 10 ans, ma cadette. Et de cette fratrie, 3 frères sont déjà décédés.
Dans quel genre d'environnement vous avez grandi ?
Un environnement de grande famille, puisque je suis la 4e d'une fratrie de 8. Un environnement assez bourgeois, je dirais, confortable financièrement, avec des parents très engagés dans l'éducation des enfants et la réalisation d'une famille épanouie, cultivée, où il y avait beaucoup de musique aussi. Mon père était ingénieur civil, il a fait sa carrière au BIT à Genève. Ma mère, elle, a enseigné le français aux États-Unis lorsqu'elle y était encore. C'était son sujet de licence. Mais une fois en Suisse, elle est devenue mère de famille et s'est occupée d'être mère de ses 8 enfants. Et donc, elle n'a pas travaillé.
Et avec vos parents, vous aviez quel genre de relation ? De complicité ou alors plutôt de respect dans une forme d'autorité assez classique ?
Je pense que c'était assez classique. Il y avait du respect, oui. Enfin, il y avait en tout cas une discipline à respecter, vu le nombre aussi. Je pense qu'il y avait de la bousculade. Il fallait que ça roule. Donc, oui, j'ai le souvenir d'avoir été assez dans les rangs. Je n'étais pas quelqu'un de rebelle ou qui essayait de faire autrement. Je pense que j'étais assez dans les rails de ce qui était attendu. Et avec eux, pas de grande complicité, hormis le fait que je parlais anglais avec ma mère et que j'étais la seule de la famille à le pratiquer avec elle. Donc ce lien-là était un peu particulier.
Parce que c'était sa langue maternelle.
Oui, et elle avait parlé anglais à tous ses enfants, jusqu'à ce qu'un de mes frères plus jeunes bégayait. Et on lui a suggéré que c'était à cause du bilinguisme. Donc elle a renoncé à ce moment-là à l'anglais. Ce qui fait que la famille était un peu scindée entre ceux qui parlaient assez bien et ceux qui parlaient moins bien. Donc je fais partie de ceux qui ont gardé l'anglais. On peut faire des interprétations là-dessus sur pourquoi j'ai continué à parler anglais à ma mère et pourquoi je ne supportais pas qu'elle ne parle français d'ailleurs. Peut-être que c'était une façon de s'accrocher, de rester en lien avec une mère qui était quand même bien occupée et que j'étais quand même isolée entre 6 frères et une petite sœur.
Vous aviez quel genre de rapport avec vos frères ?
Je pouvais être plus ou moins intégrée à leurs activités, selon aussi leur bon vouloir, puisqu'ils se bagarraient beaucoup et que c'était assez rude parfois. J'avais l'impression d'être un petit peu en retraite tout en étant observatrice et je cherchais plutôt la compagnie de mes frères cadets, parce que j'étais plus égale en force. Et j'ai ce souvenir d'avoir pu lutter avec les frères plus jeunes. et que c'était une grande source de satisfaction parce que je pouvais les battre. Les frères aînés, je n'y pensais même pas.
Et en termes d'amitié, vous avez quel genre de relations sociales ?
Alors, je pense que j'ai eu des amies assez nombreuses de l'école, des filles en l'occurrence. Elles venaient d'autant plus volontiers, à mon avis, que c'était justement une maisonnée bien animée. Et il se passait toujours beaucoup de choses. Ça ne pouvait pas être calme avec autant d'enfants. Et donc, elles étaient aussi fascinées par toute cette agitation. Même si le foot dominait largement dans le jardin, il y avait de quoi faire d'autres choses aussi avec elles. Alors, il y a eu une rupture dans ma scolarité, parce que mon père trouvait que, et mes frères et moi-même, n'avions pas de très bons résultats dans le programme suisse, et il s'est mis en tête de nous mettre en école française. Donc, les frères aînés sont allés en privé, et moi aussi, bien que j'ai toujours eu l'impression que si je ne faisais pas d'études, par la suite, ce n'était pas la fin des haricots. Pour mes frères, c'était important qu'ils fassent carrière, enfin qu'ils aient une bonne formation. Pour moi, c'était peut-être secondaire.
Parce que vous étiez une fille ?
Oui. Donc j'ai quand même eu droit à un passage en privé. J'ai quitté le village à ce moment-là et j'étais demi-pensionnaire à Versoix, ce qui n'est évidemment pas loin de Chambézy, mais qui m'a complètement coupée de mes amitiés locales et qui a été assez mal perçue aussi. On disait, bon, ben, dans cette famille, les gens vont en privé parce que ce n'est pas assez bon pour eux ici. Ça a été un moment, je pense, assez déterminant dans la suite de mes amitiés parce que il y a eu cette rupture avec les camarades du village. Là, j'avais 8 ans.
Et vous étiez quel genre d'enfant ?
Je pense que j'étais une enfant assez joviale. J'aimais faire des cadeaux, j'aimais faire plaisir à ma famille, j'aimais les moments de partage, j'aimais être sollicitée. Donc j'étais assez joyeuse, oui, jusqu'au moment où j'ai vécu le début de l'inceste. Donc voilà, ça c'est un peu le début d'une période difficile pour moi, disons.
Ça c'était à quel âge ?
Là j'avais 8-9 ans, ce qui voulait dire que ce frère en avait 13-14. C'est un moment très précis d'ailleurs que je visualise très bien, au moment où ce frère, qui est en fait le deuxième, m'a proposé d'aller dans sa chambre. Et je me souviens très bien avoir été assise au bord du lit avec lui, et puis il s'est dévêtu et il m'a dit, voilà, tu vois, tu peux très bien me toucher là, c'est comme si tu me donnais la main en fait, ça n'est rien d'autre. Bien entendu, ce n'est pas du tout quelque chose que j'imaginais être naturel ou aussi banal que de se donner la main, mais enfin voilà, ça a commencé comme ça.
Et concrètement, à ce moment-là, quand lui se met nu et puis commence à vous inviter à le toucher, est-ce que lui porte la main sur vous ? Est-ce que lui-même se touche tout seul ?
Alors, il prend ma main pour que je touche. Il me conduit vers lui, mais il ne me touche pas. À ce moment-là, en tout cas pas, non. Plus tard, ça a été un peu différent, mais il ne s'est pas jeté sur moi. Enfin, il n'a pas essayé de... Voilà, c'était vraiment une invitation à des caresses, je dirais. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si je me suis exécutée. Je pense que j'étais complètement transie. Et de voir ce frère dans cette posture-là, à me présenter son sexe, j'étais terrifiée par ce qui se passait. J'étais glacée et affolée. J'avais envie d'aller me cacher. Donc il y a eu cet épisode-là, et puis après de nombreux autres, avec des modes plus ou moins identiques. La nuit aussi, quand j'étais déjà couchée. Il venait dans ma chambre, il venait dans mon lit. Alors il me caressait, mais il ne me regardait jamais. Il n'était jamais en face de moi. Alors je ne sais pas ce qu'il faisait, en fait. Je savais très bien à quoi il en venait, mais je ne voyais rien. En général, il me touchait les seins, c'est tout. Enfin, ce que j'avais de seins à 9 ans, parce que j'en avais pas tellement, même si j'étais rondelette. Mais ça n'avait rien d'étonnamment de très agressif. C'était pas « je t'empoigne par les cheveux et puis tu viens par là ». C'était très insidieux et néanmoins très angoissant pour moi parce que totalement incompréhensible et impossible à partager en fait.
Et complètement aléatoire.
Complètement, oui. Alors c'était soit de nuit, soit des moments où j'étais seule à travailler ou... Il débarquait et je me sentais totalement dépourvue d'issue ou de solution. Enfin, je n'avais pas l'idée de hurler ou d'aller chercher de l'aide, pas du tout. J'étais paralysée, je crois. C'était très étrange, complètement aberrant, incompréhensible. Je n'avais aucun repère, je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà un frère dont je respectais les compétences, qui était un bon élève à l'école, qui, si ça se trouve, m'aidait avec mes devoirs et tout ça. Donc une perte totale de confiance, un total bouleversement.
Avant ça, il n'y a pas eu de moment plus jeune où lui prenait plaisir à vous humilier ou d'une quelconque façon, pas du tout?
Alors non, il n'y a pas eu du tout de sa part, non. Du troisième frère, oui, lié au fait que je prenais du poids à ce moment-là aussi et que j'ai eu une phase d'obésité qui était très pénible. et qui correspond un peu au début de ces épisodes. Mais il n'était pas du tout, non, pas du tout. C'était presque un peu chez lui, un peu une crainte, c'est particulier. Il était très prudent. Dans les moments où je le croisais autrement, il avait un regard très fuyant. Il me regardait très rarement dans les yeux. Et je savais très bien d'ailleurs, selon la façon qu'il avait de me regarder, qu'il valait mieux que je me tienne. Je percevais très bien, j'avais développé une très grande sensibilité à ce côté, enfin, que je qualifierais de pervers, parce que c'était vraiment très sournois. Mais à ce moment-là, en effet, je me suis mise à éviter de me trouver seule dans des endroits de la maison où on pouvait m'atteindre. J'évitais et son regard et sa présence le plus possible. Donc, je faisais mes devoirs dans le salon, dans les parties communes de la maison, d'où je me faisais chasser par mon père, parce qu'il trouvait que comme ça, je ne travaillais pas bien mes devoirs en public, ce qui est une évidence, mais bon. Donc, mon père lui-même m'envoyait dans des lieux où j'étais vulnérable et je n'osais pas dire non. Donc, je me retrouvais à des moments... Totalement disponible, en fait, pour ce frère quand il était là. Je me souviens d'avoir été tout le temps sur mes gardes et à devoir penser ma vie en termes de est-ce que ça va être aujourd'hui, demain, où est-ce que je vais être aujourd'hui pour ne pas être agressée, ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux que je sois agressée comme ça, je suis tranquille un moment. Et... Il y avait quelque chose d'inéluctable. Je sais tout de suite et j'identifie immédiatement que quelque chose va se passer. Je sais que ça va m'arriver, ça ne me tombe pas dessus. Je sais, c'est dans l'air. Je ne m'expose pas, je ne vais pas dans les endroits de la maison où je risque d'être surprise, mais je sais que ça va se passer. Donc j'étais complètement transie, terrifiée, mais terrifiée à l'idée que ça se sache. J'avais très peur que mes parents le sachent. Enfin, une peur terrible d'être découverte, et je faisais tout pour que rien ne se sache. Donc je respirais, en fait, quand c'était fini. Je pouvais me dire, bon ben ouf, cette fois, personne n'a vu, personne ne sait. Les parents ne savent pas. Il ne se passera rien, on va se retrouver à table et au moment commun où on fait la vaisselle ensemble, et comme si de rien n'était, jusqu'à la prochaine fois.
Est-ce que vous connaissiez le mot inceste ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous évoquait une forme de réalité ?
Je ne pense pas que je connaissais le mot, non. Je n'avais pas idée que ça pouvait exister dans les familles, que ça pouvait être l'affaire du père ou l'affaire d'un oncle ou d'un grand-père, ou plutôt des messieurs que des femmes, et encore... Donc non, je n'avais aucune connaissance, il n'y avait pas, dans les cours qu'il y avait de prévention ou d'éducation sexuelle, il n'était jamais question de ne vous laissez pas toucher, c'est vos parties intimes. Enfin, on n'avait pas ce genre de discours dans les milieux scolaires, dans l'éducation que j'ai reçue. Et ma mère ne prenait aucune initiative non plus pour m'expliquer que mon corps changeait, par exemple, et que j'allais devenir une femme. Enfin bref, tout, je ne sais pas comment les mères parlent à leurs filles, mais en tout cas, elle ne m'a pas parlé.
À quel moment est-ce que le deuxième frère, donc le frère aîné pour le coup, lui a commencé aussi à se transformer en agresseur ?
Alors lui, je n'ai pas de repère de date et je n'ai pas de repère de première fois non plus, mais la présence de l'aîné est plus diffuse, c'était moins long et moins assidu. Le frère aîné, c'était assez brutal. Enfin, il ne me bousculait pas, mais enfin, il faisait ce qu'il avait à faire. Il se masturbait sur moi, en fait. Mais il prenait des précautions. Il mettait un bout de tissu ou quelque chose pour pas me toucher. Je ne sais pas, enfin, quelle était la préoccupation à ce moment-là. Mais j'ai été plus, à ce moment-là, plus consciente du fonctionnement masculin au moment du plaisir. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Donc j'étais agressée par tous les deux, mais d'une manière très différente. Aussi différents qu'ils pouvaient être tous les deux, de caractère et de personnalité, c'était pas du tout le même mode. La nuit, c'était le deuxième. C'était pas sa spécialité, mais enfin, c'était plus la nuit pour le deuxième frère. L'aîné, jamais. Et je crois que c'était plus bref dans le temps aussi. Ma perception du temps, si je devais mettre une parenthèse, je dirais que c'était de 9 à 16 ans, à peu près 15-16 ans.
Donc pendant 6 ans il y a eu au moins un agresseur à vos trousses.
Oui.
Et à quelle fréquence, vous diriez ?
Difficile à dire, mais certainement tous les deux jours.
Est-ce que pendant ces agressions, et notamment durant celle de votre frère aîné qui arrive dans cette situation déjà complètement perverse avec l'autre frère, vous échangez des mots avec lui, vous parlez, ou comment ça se passe ?
Il n'y a pas de mots du tout, rien. On ne me demande rien, en fait. Enfin, on m'agit d'une certaine façon. Et pendant que ça se passe, ça se passe vite. Et c'est tout. Je n'essaye pas de me débattre, de lutter, de rien du tout. Je ne fais rien pour fuir, parce que je ne peux pas. Si je fuis à moitié dévêtue, et même si je suis vêtue d'ailleurs, parce que je pouvais même être totalement vêtue, quelqu'un va comprendre ce qui se passe en fait.
Vous avez mentionné tout à l'heure un changement d'alimentation. Qu'est-ce qui, à partir de ce moment-là, donc de vos 9 ans, a changé dans votre attitude qui peut-être en rétrospective essayait d'alerter ou était une façon de vous adapter à cette réalité perverse?
Alors pourquoi subitement est-ce que je me suis mise à manger excessivement? J'ai rapidement été en surpoids. J'ai d'ailleurs même été amenée à une consultation pour ça. Ce qui aussi me faisait avoir peu d'estime pour moi. Je me trouvais laide, j'avais les cheveux gras, enfin il y avait toutes sortes de manifestations extérieures qui faisaient que je me trouvais vraiment peu attrayante. On peut lire les choses de manière diverse. Est-ce que je me rendais inattrayante ou au contraire, est-ce que je voulais qu'on me regarde ou qu'on me considère ou que je sois vue et remarquée? Je ne sais pas trop. Puis après, il y a une phase où j'ai pris des coupe-faims qui, à ce moment-là, étaient légaux et que j'ai beaucoup maigri. J'ai eu une phase très mince aussi, par la suite, vers 16 ans. Bon, il y a eu aussi la période des règles, hein, aussi, qui est intervenue assez tôt. Pour ma part, je devais avoir 13 ans à peu près. Et je me sentais très seule aussi, à ce moment-là, dans cette découverte-là. Parce que je n'ai même pas osé dire à ma mère que c'était arrivé. Il faut savoir aussi que d'être caressé de manière répétée aussi fait qu'on a des sensations et qu'on les réprime parce que, justement, elles proviennent de gens qui ne sont pas des partenaires normaux. Donc il y avait tout ce conflit de ma propre évolution, de comment je sentais les choses et comment je les réprimais. Donc vraiment une image d'un corps qui est désiré, mais pas correctement. Mais qui a du désir aussi. Je m'en cache pas, j'étais aussi, je m'éveillais aussi. Toute seule, enfin moi-même, je m'éveillais, je m'observais, je voyais bien que je changeais, mais je ne pouvais pas du tout mettre en adéquation ce qui m'arrivait, et puis une espèce d'évolution normale où j'aurais été tournée vers des garçons ou des filles, enfin bref, même si je parlais à des copines et qu'on se regardait, enfin on essayait de savoir ce qui nous arrivait, mais sans que je partage ou que j'ose m'exprimer sur ce qui m'arrivait. Donc je n'ai jamais parlé à ma mère, c'est elle qui a découvert ce qui se passait. Un jour, elle a surpris mon frère, le deuxième. J'étais dans la chambre de mes parents, en fait, où il y avait un bureau et c'était plus spacieux. Donc j'étais tête vers la fenêtre, je travaille et mon frère, le deuxième, arrive et commence à me caresser. Bon, je sais que ça dure quelques minutes et ma mère arrive. Elle le voit, je pense, me tenant, enfin, j'imagine, parce que je restais assise sur la chaise en train de travailler. Donc j'ai su qu'elle avait vu ce qui se passait et elle repart aussitôt, elle ne dit rien en fait, je pense que ça l'a complètement glacée. Elle est partie et moi je n'ai pas osé me présenter, voilà, mon frère a quitté la pièce et pour ma part j'ai été me cacher dans mon lit. Enfin j'étais terrifiée bien entendu, je savais que quelque chose allait advenir mais quoi je ne sais pas, je n'osais plus descendre à l'étage du ré où on devait manger ensemble. Je suis allée me coucher dans mon lit, ma mère est montée, elle m'a découverte et elle m'a frappée de toutes ses forces. Elle était enragée. Elle m'a dit que c'était atroce, que j'étais une tentatrice. Enfin, elle m'a craché tout son venin. Elle a été atroce, très brutale. C'est une des seules fois, je pense, où ma mère m'est frappée. Et voilà, elle m'a dit que j'étais diabolique, que c'est moi qui invitais mon frère. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Je n'ai même pas demandé le détail. Elle était complètement dépassée, mais pas du tout à me dire « Écoute, explique-moi ce qui se passe. Ça me paraît pas normal. Rien du tout, tout ça. » Non, non, c'était très violent. Elle était hors d'elle, vraiment au sens propre.
Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous comprenez qu'elle sait désormais?
Il y avait peut-être une forme de soulagement que ça éclate et que ce soit su, mais en même temps une révélation d'une mère dans un état très effrayant pour moi et une espèce de constat, comme si c'était brutal, mais le début de « bon, ça veut dire que je n'ai vraiment rien à attendre d'elle ». C'était vraiment la fin du plus petit espoir que je pouvais avoir qu'un jour elle compatirait. Après, si elle me voyait avec un chemisier un peu ouvert, elle me disait « t'as la mémoire courte ».«
T'as la mémoire courte ?»
Oui, autrement dit, ben, si tu t'habilles comme ça, tu vas tenter tes frères à nouveau ou t'es en train de te mettre dans une situation de tentatrice, enfin, ce que justement elle me reprochait.
Et votre père, est-ce qu'il l'a su ?
Alors, mon père l'a su, oui, et il a très peu interagi avec moi. On n'en a quasiment pas parlé. Mon père était quelqu'un qui n'aimait pas trop les conflits et évidemment le fait que ça ternissait l'image familiale, donc il était très alissé un peu et ça devait le déranger beaucoup que ça puisse se passer dans sa famille. Donc la solution pour mes parents était d'une part mon père de donner de l'argent à mon frère pour qu'il aille voir une prostituée et moi j'ai été mise en internat en France voisine pendant quelques mois. Ostracisée en fait, c'est moi qu'on éjectait. Et là, j'avais 14 ans. J'arrivais à la fin de l'école obligatoire, puis j'ai fait la seconde en France voisine, enfin une partie. Et puis là aussi, une nouvelle aberration. J'étais bien à l'extérieur, mais le programme était difficile pour moi. Et j'étais très, très malheureuse d'être écartée de la maison, où j'étais pourtant pas confortable. Il a fallu la complicité du père d'une amie, qui me savait très malheureuse là-bas, pour faire pression sur mes parents et demander qu'on me rapatrie, en fait, qu'on me laisse rester chez moi. Malgré tout ça.
Quand est-ce que vous commencez à sentir qu'il faut en parler ?
Alors, c'est à l'école secondaire, je pense. J'ai parlé à deux personnes. Une première fois, dans le cadre de ce pensionnat, qui était religieux mais laïque. Il y avait une enseignante d'anglais avec qui je m'entendais bien. Et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Je lui ai dit que mes frères m'agressaient. Enfin, je ne sais pas quel mot j'ai utilisé à ce moment-là. Et donc, elle m'écoutait. Je pouvais venir lui parler, mais son attitude a été de me dire « mais il faut que tu pries, enfin il faut prier ». Donc elle n'a pas été du tout active. Elle m'a dit que c'était une bonne idée de prier, d'essayer de me faire aider par le Très-Haut. Enfin bon, mais rien que le fait qu'elle sache, ça me soutenait. Je me réjouissais des cours d'anglais, je me disais « voilà quelqu'un qui sait que je souffre et qui m'a accueillie quand même si elle n'a pas agi ».
Mais au moins c'était partagé.
Oui, j'avais l'impression que peut-être qu'elle me donnerait une forme d'estime, oui. Et la deuxième fois, j'avais à ce moment-là 16 ans, c'était au collège, un prof de français que j'appréciais bien aussi, à qui j'ai parlé, qui m'écoutait, qui me demandait régulièrement comment ça allait, mais qui n'a jamais agi non plus. Donc je n'ai pas eu, dans mon environnement d'adulte, quelqu'un qui ait agi du tout. Bon, par la suite, ma mère a quand même perçu que j'avais peut-être besoin d'un coup de pouce. Elle m'a quand même envoyée chez une psychologue pour un soutien momentané. J'ai pas un souvenir formidable de cette psychologue parce que je lui ai raconté que dans la foulée de ces événements, je me suis confiée à un musicien qui venait beaucoup faire de la musique à la maison et qui s'est déclaré amoureux de moi. Alors j'ai eu cette espèce d'idylle avec un homme marié qui venait à la maison en tant qu'ami de la famille, souvent avec sa femme d'ailleurs, donc de nouveau quelque chose de clandestin, mais un amour d'adolescente quasi platonique. Enfin oui, on s'embrassait, c'est tout. Mais enfin, il m'idolâtrait complètement et je découvrais quelque chose de... Voilà, j'étais valorisée, j'étais quelqu'un de... Donc lui non plus m'a pas beaucoup aidée à me sortir de ce qui se passait, mais je me suis sentie valorisée. Donc il y a eu ça et cette psychologue ayant entendu cela me disait « Oui, c'est ces hommes qui ont des femmes dans chaque port. » Enfin, je trouvais que c'était mal compris, elle n'avait pas bien compris que j'étais accueillie, qu'il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre d'un accueil et d'un respect, en tout cas. C'était très respectueux comme relation. Il n'y avait rien de brutal.
Quand est-ce que vous avez pris conscience de ce qui s'était réellement passé ?
Je pense que j'ai toujours compris que quelque chose se passait de pas normal, mais que j'ai lutté pendant des années et des années pour l'enfouir et ne pas y faire allusion. Et je me suis mariée, j'avais partagé avec mon mari avant d'être sa femme.
Comment est-ce qu'il avait réagi ?
Il était choqué, il n'en a pas parlé à mes frères, lui-même ne s'est jamais exprimé avec eux. Mais lorsque j'ai eu des enfants, il a souhaité que je leur dise. Mais je n'ai pas pu le faire jusqu'à tout récemment. Donc pendant des années, j'ai été la personne qui accueillait mes frères à la maison. On a fait des fêtes, enfin j'étais très à organiser les fêtes de famille, sans qu'il soit jamais fait référence à tout ça, et que mes frères soient autour de nous comme adultes en fait.
Quand vous les voyez, c'était un effort pour vous, ou est-ce que vous étiez dans un déni ? Comment est-ce que vous le qualifieriez ?
Alors le frère aîné, avec lui, non, pas du tout. Mais avec le deuxième, oui, il y a eu des moments où il se mettait à genoux pour me demander pardon en pleurant. Il était extrêmement excessif et passionné. Et puis, par la suite, dans sa vie, il m'appelait, il me téléphonait beaucoup, et ça durait très longtemps. Et j'ai dû lui demander d'arrêter de m'appeler. J'en avais assez de ces longs discours. Il admettait qu'il avait dû me faire du mal, et voilà, il se repentait d'une certaine façon. pour finir, ça m'était insupportable. Puis ça ne m'apportait pas grand-chose.
Non, il se déchargeait de sa culpabilité sur vous.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a quelques années, j'en ai parlé aux enfants. Donc, j'étais veuve depuis 7 ans à peu près. Et je m'apprêtais à prendre ma retraite et j'avais voulu consulter une thérapeute pour m'aider à me préparer à la retraite. Bon, très rapidement, je lui ai parlé de ces épisodes de l'enfance et voilà, on a travaillé dessus déjà plusieurs fois. Et j'ai rencontré quelqu'un et j'avais besoin de remettre le compteur à zéro. Enfin, j'avais cette impression que je m'embarquais dans une histoire qui allait compter et j'avais besoin que ce soit clair. Donc j'en ai parlé à cette personne. Et à ce moment-là aussi, j'en ai parlé aux enfants. Je les ai réunis et je leur ai dit. Et s'en est suivi, bien sûr, le bouleversement de ces enfants qui connaissent leurs oncles et toute la famille et les grands-parents qu'ils ont quand même connus. Un petit peu, pas très généreusement, parce que je ne confiais pas volontiers mes enfants à mes parents.
Ils avaient quel âge au moment où vous leur avez parlé, vos 4 enfants ?
Alors, ils avaient entre 34 et 37 ans. C'était il y a 3 ans. Bon, ils étaient catastrophés. L'aîné a été très entourant et très affectueux, mais assez discret, peu verbal à ce propos. Ma fille, la deuxième, qui était déjà maman, était complètement bouleversée aussi, en considérant sa propre fille, qui n'était pas loin de l'âge que j'avais moi, et que je vois aussi comme une fillette de 8-9 ans. Et puis, la troisième, qui, elle, voyait plus ou commençait à me relire en fonction de cette information et à me dire, mais maintenant, il y a beaucoup de choses que je comprends sur ta manière d'avoir été avec nous aussi et d'avoir été notre mère et la femme de notre papa. Et puis le cadet, lui, alors ça s'est manifesté par quelque chose d'assez dynamique. Il a souhaité qu'on enregistre l'histoire depuis mes grands-parents, le contexte familial et développer un petit peu ce qui s'était passé. Et c'est lui aussi qui a continué d'entretenir cette volonté que j'avais de partager, de mettre ça par écrit, ou enfin de ranger ça quelque part, qu'il ne soit pas sous le tapis, mais de façon un peu plus ouverte. Ça a signifié qu'ils n'ont plus de relations avec les frères aînés ou leurs épouses. Donc c'est comme si on avait vraiment tiré un trait. On a fait une partition. Il y a la famille d'origine, et puis la famille que j'ai créée moi-même, avec mon mari décédé maintenant. Mais quand j'en ai parlé à mes enfants, il y a 3 ans, avec l'aide de ma thérapeute, j'ai essayé de confronter mes 2 frères aînés. Je leur ai écrit à tous les 2 pour leur dire que je souhaitais leur parler chez cette dame, enfin cette médiatrice ou thérapeute, dans l'idée probablement d'essayer d'arriver à un type de relation peut-être plus honnête où je pouvais être capable de leur dire que j'avais beaucoup souffert et que j'ai eu des moments vraiment chaotiques dans ma vie ou mettre un peu des noms sur les choses. Et malheureusement, ça ne s'est fait qu'avec l'aîné. Le deuxième, il y a eu le Covid et puis il n'a pas pu venir. Il était au Texas, le deuxième frère. Donc bon, l'aîné est venu au rendez-vous. Ça n'a pas été très concluant. Il a été très cynique parce qu'il interpellait la psy en disant... l'inceste, vous devez en voir tous les jours, ça doit être monnaie courante, comme si c'était banal. Il a admis qu'il avait pu m'avoir fait du tort, et puis il m'a dit que mes enfants ne l'intéressaient pas. Enfin, donc c'était dur pour moi, mais au moins il s'est présenté. Et puis le deuxième n'a pas pu venir, et il est décédé l'année suivante. Mais le deuxième a été très ferme sur le fait que j'avais brisé un accord. Il m'a dit, tu m'avais promis de ne pas parler à tes enfants, tu l'as fait. C'est un coup de poignard dans le dos, etc., etc.
Qu'est-ce que ça vous a fait à vous d'avoir confirmation du fait que c'était vraiment arrivé et qu'ils reconnaissaient le tort qu'ils vous avaient fait ?
J'ai entendu qu'ils ont reconnu le tort, mais ça ne suffit pas à vous faire oublier, effacer complètement et on passe à autre chose. Si c'était intervenu de manière plus précoce ou dans un début de vie pour moi d'adulte, est-ce que ça aurait été plus paisible pour moi ? Est-ce que j'aurais pu partager plus facilement ? Je ne sais pas.
Vous mentionniez le fait qu'une de vos filles vous a dit que ça lui permettait de mieux comprendre la mère et l'épouse que vous avez été. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ces abus ont eu un impact très grand sur la façon dont vous protégiez vous-même vos enfants ?
J'ai pas surprotégé mes enfants, je ne crois pas. En tout cas, je n'avais pas constamment à l'esprit cette notion ou l'idée que ça pouvait se passer entre eux. Mais ce que ma fille a perçu, c'est que j'étais très peu encline à leur parler de ce que ça allait être de rencontrer un garçon, enfin voilà, les premiers émois, ou même de parler des règles et ces choses-là. Elle m'a dit, mais toi non plus, tu n'étais pas très explicite. Et qu'elle sentait chez moi une résistance aussi, à ce niveau-là, ce qui concernait le côté physique, en fait, du corps, en général.
À ce propos, est-ce que vous avez eu le sentiment dans votre vie de femme que ça a eu un impact sur votre rapport à la sexualité?
Oui, je pense que oui. Enfin, j'essaye de lire ma manière de vivre mon propre côté physique et de désir et d'attitude et de comment je me perçois. Et j'essaye d'identifier ou de repérer des choses qui auraient pu être la suite de ces moments traumatisants. Je pense qu'il y en a eu, alors je ne peux pas tellement les mettre des noms dessus, je ne sais pas trop.
Mais est-ce que vous avez pu prendre du plaisir, oui, dans un cadre sain, avoir une sexualité
Alors j'ai pu, oui, j'ai été mariée assez longtemps. J'ai aussi éprouvé du désir pour des personnes qui n'étaient pas mon mari. Ça n'a jamais abouti, je dirais, mais il y a eu des gens vers qui j'étais attirée, mais qui n'ont pas eu une existence dans ma vie autrement. Je réfrénais quand même ce genre de penchant, mais disons, je ne peux pas dire que j'ai été freinée ou que j'ai été...
Ça ne vous a pas bloqué
Non, même si je me sentais plutôt pudique ou enfin pas spécialement à m'extérioriser, mais je n'ai pas le souvenir de pouvoir associer cette espèce de réserve-là au trauma.
L'inceste, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, depuis notamment MeToo. Mm-hmm. On a eu MeToo Inceste, une grosse production littéraire aussi. On entend beaucoup parler de ce livre Triste Tigre, qui a remporté des prix et qui est vraiment un phénomène littéraire. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui quand vous entendez ce genre d'histoire à la radio, dans les médias? Comment est-ce que vous vivez cette époque où d'un coup on se met à écouter?
En fait, ça me plombe le moral, parce qu'en parlant à son entourage, on entend d'autres gens qui témoignent de choses similaires, et c'est affolant. J'ai des collègues qui ont admis que ça s'était passé dans un cercle proche. On sait que statistiquement, il y a tant d'enfants, 1 sur 10, 3 sur 30 dans les classes en France. On imagine ces victimes et on se dit, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut une condamnation publique pour réparer? Je ne sais pas si c'est plus réparateur. Est-ce qu'il faut amener les gens à une cour, enfin à un jugement, pour que ce soit reconnu publiquement, ou est-ce qu'il suffit de le dire et de le clamer et de dénoncer? C'est un peu comme s'il y avait ces deux pistes-là.
Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui se reconnaissent dans votre histoire, mais qui n'ont jamais osé en parler?
Enfin, je les encouragerais à partager, en tout cas. Même si ça n'est pas suivi d'effet, il faut le partager. Je pense que ça, c'est indispensable. Garder pour soi, c'est très compliqué. Même aller chercher une aide professionnelle, ça peut aider à décoder. Parce que je crois que du moment qu'on fait cette démarche-là, on a déjà fait un bout de chemin. Et je pense qu'il faut apprendre à s'écouter aussi. Parce que j'imagine qu'il y a des... Les gens révèlent des choses, les enfants révèlent des choses auxquelles on n'est pas attentif. Il faut, oui, que ce soit dit haut et fort. Ne serait-ce que pour la personne qui peut le dire, c'est déjà une libération.
Aujourd'hui, maintenant que vous avez pu partager cette histoire avec vos enfants, quelle place ça prend dans votre quotidien?
Ça ne prend pas une place démesurée. Je dirais que quand j'ai des moments de fragilité que j'éprouve régulièrement, je peux y penser ou me dire, tiens, je me demande si. Est-ce que c'est parce que j'ai vécu ça que c'est compliqué ou parce que j'y ai beaucoup pensé récemment? Je dirais que la place va se minimiser, parce que j'ai l'impression d'avoir partagé quelque chose de pesant et que mes enfants ont pu mettre ça à une place ou à une autre. D'une certaine manière, j'ai distribué ce poids. Ils le portent et ça me soulage. Ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Mais quand j'en ai parlé à mes enfants, après coup, je me disais, mais ils vont me lire à travers ce filtre-là, et ça m'ennuyait. On n'a pas envie que ces événements expliquent tout de notre vie. J'espère être autre chose que la victime, que la fille pas considérée, laide, grosse. Je me dis, je ne peux pas être résumée à ça.
Qu'est-ce que vous diriez à la petite fille de 8-9 ans que vous étiez et qui était complètement perdue?
Je lui dirais bien de montrer qu'elle souffre, mais je ne sais pas trop comment. Je lui dirais de s'y prendre, vers qui se tourner. qui est-ce qui l'écouterait? Mais je dirais d'essayer, oui, au moins d'essayer. Du moment qu'il y a cette intrusion, du moment qu'il y a ce viol, en fait, il faut absolument le dire vite, parce que la répétition et l'installation et le développement d'habitudes sont toxiques et que c'est un engrenage qui devient vite un système qui est très générateur de souffrance. Parce que je pense que l'image de soi en prend un sacré coup. Donc il vaut mieux essayer de se manifester, oui. Si ce n'est pas dans l'entourage immédiat, si ce n'est pas les parents, si ce n'est pas possible, à 8-9 ans, je pense qu'on a déjà des camarades, il y a déjà des gens qui nous apprécient et qui tiennent à ce qu'on soit bien, en fait.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la 6e saison de Brise-Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!